Un spectacle en deux reprises, en deux rounds. Ce choix de vestiaire, ça vous est venu de quelle manière? Ce ne sont donc pas des propos de table, mais des propos de vestiaire.
Oui, exactement. C'était de faire des propos de vestiaire et puis de se dire que le vestiaire est un moment de pause entre deux urgences de vie. C'est un moment où quelque part on peut se lâcher et puis on peut laisser un petit peu sa pensée courir. Et c'est aussi un endroit, le vestiaire, parce que là on est dans une espèce de grand vestiaire de la vie, un petit peu. Hein. C'est le combat quotidien, des chroniques du combat quotidien qu'on tient. Puis dans le vestiaire, tout le monde est égal, dans le fond. Il y a une véritable égalité. Les gens très riches se retrouvent aussi des fois dans les vestiaires pour aller voir des choses. C'est-à-dire que c'est vite absurde.
Qui est vraiment une réalité à leur quotidienne.
Alors déjà, n'étant pas genevois, mais neuchâtelois, et puis n'étant pas inscrit au chômage, je connais ces questions, mais je les pratique pas directement. Par contre, moi je pense que le problème, il est plus fondamental que ça. On n'a pas de statut en Suisse. Il n'y a pas de statut d'artiste, quel qu'il soit, que ce soit pour les musiciens, les comédiens, les danseurs, peu importe. Il y a au spa ou tout ça, et puis des employés modestes, ils vont pour revêtir leur tenue de travail. Donc au bout d'un moment, tout le monde est égal dans le vestiaire, il vient pour la même raison, se changer, et nous on essaie de se changer un petit peu les idées en même temps que les vêtements.
C'est l'arrière-cour d'une personnalité, d'une vie qui s'échange, deux comédiennes, 30 costumes, et puis en même temps, peut-être par rapport au temps qui est le nôtre, c'est-à-dire cette pulsion scopique par rapport à une intimité surexposée, sur laquelle vous jouez très peu d'ailleurs, même s'il y a certains codes qui se retrouvent, mais quelque part dans cet habillage et déshabillage de ces comédiennes qui viennent à tour de rôle, quelque chose se lie de ce qu'on dépose de soi et de ce qu'on amène pour une nouvelle vie. En même temps, vous avez voulu ces textes écrits avec des allitérations, des assonances, donc un aspect extrêmement sonore aussi.
Oui, parce que c'est une écriture en fait qui est faite pour être dite, c'est pour le théâtre, donc bien sûr c'est écrit et puis on n'est pas... Enfin, la première partie, elle est très très orale. Mais la deuxième est vraiment écrite à partir du moment où on rentre vraiment dans le vestiaire. Mais le but est quand même que ce soit dit, donc qu'il y ait des appuis de jeu aussi pour les comédiennes dans le texte lui-même, et que ce soit le texte qui puisse parler pour et par lui-même, qu'on n'ait pas besoin de souligner les choses, qu'elles soient simplement là.
Justement pour cette question de cette première partie, c'est-à-dire c'est le parcours du combattant pour une jeune compagnie, un dépôt effectivement de dossier. Cela commence avec un téléphone dans un service des affaires culturelles d'une ville romande qui ne reste pas dite. Et effectivement, il y a ce numéro au téléphone et ces dates de dépôt. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des éléments que vous avez choisi d'extraire justement par rapport à non pas ce paradoxe du comédien, mais en tout cas ce making-of auquel se heurte chaque compagnie dans des conditions légales qui vont se durcir, puisqu'effectivement nous sommes à l'aube de la révision de la loi sur le chômage qui, semble-t-il, ça ne fait pas un pli, va laisser dans sa nouvelle mouture approximativement 50% des comédiennes et comédiens sur le carreau.
L'idée, c'était un petit peu de montrer l'aspect vite kafkaïen des choses, c'est-à-dire que c'est vite absurde. On peut, comme c'est une nouvelle compagnie, il y a des gens qui ne soutiennent jamais les premiers projets. Il y a des gens qui ont des fonds spéciaux pour soutenir les projets, mais qui vont considérer que tel ou tel participant au projet est trop expérimenté pour pouvoir y rentrer. Donc en fait, selon le même point de vue, on peut vous répondre oui, on peut vous répondre non pour les mêmes raisons. Et puis au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La question, elle est vraiment là, c'est de savoir ce qu'on va en faire. Et puis pour nous, l'aspect de dire, on va dépasser, on va transcender ça, et puis on va quand même en faire quelque chose. Et on va vous montrer que même vos réponses négatives, vos mises en attente au téléphone, la liste à la Prévert de tout ce que vous ne soutenez pas, devient une matière théâtrale. Nous, on peut en faire quelque chose, on peut faire rire là-dessus, on peut informer, mais de façon ludique, jamais vindicative, parce que c'est pas le but non plus, mais pour montrer que quelque part, nous, on se situe, notre métier se situe en dehors de ces considérations-là, auxquelles on est bien obligé quand même de se plier pour pouvoir exister et puis mener une existence financière avec ça. Donc c'est un peu ce paradoxe-là, cette contradiction et le frottement qui en sort, qu'on exploite après comme un matériau de théâtre. De l'absence de critères, disons, de critères flous pour le subventionnement, qui est toujours quelque chose qu'on met sur le compte de la soi-disant bêtise des responsables politiques. Mais c'est pas de la bêtise, c'est voulu. C'est que plus c'est flou, et c'est pas un flou artistique, plus on peut se permettre de dire oui ou non pour la même raison, et puis c'est plus, on sent que ce sont plus des contingences finalement budgétaires qui règle les choses. Mathieu Menghini, qui est maintenant directeur du Forum Mérin, avait dit à l'époque que les autorités devraient se demander pourquoi on soutient le théâtre. Et les réponses qu'on peut donner à ça forment des critères tout à fait politiques et donc assumables. Mais malheureusement, cette question semble un petit petit peu vide des bureaux des différentes administrations, qu'elles soient cantonales, communales ou fédérales. Un critère de subventionnement qu'on nous donne de temps en temps, c'est l'urgence et l'actualité de la démarche. Je vois pas comment on peut demander aux gens d'avoir une démarche urgente, sur le vif de commentaires de quelque chose, si c'est 24 mois ou 18 mois à l'avance qu'on doit savoir déjà ce qui va se passer pour pouvoir le commenter à ce moment-là comme on le veut. Donc, si on pense par exemple à une pièce qui avait fait date à l'époque au début de la carrière de Peter Brook, qui est US, qui traitait du Vietnam, ou on peut penser à Paradise Now, du Living, ou comme ça, c'est des choses qui sont créées d'un coup sur le moment à vif. Et puis voilà, donc là on essaie de scléroser un peu les choses en demandant aux gens d'avoir des projets bien 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 à l'avance, de réserver les comédiens bien 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 à l'avance, etc. En même temps qu'on nous demande un suivi administratif incroyable derrière, mais les administrations ont rarement les moyens de faire ce suivi à leur tour aussi. Et puis on nous demande tout ça bien à l'avance, mais donc du coup il n'y a pas vraiment de spontanéité, enfin il y a peu de place laissée à ça. Et puis ça devient finalement critères d'exclusion quand on publie pas les délais ou que les délais changent tout le temps. Et le dernier point encore dans l'aspect lissage des choses, c'est les formulaires types de demandes. Ça foisonne, hein, y en a de plus en plus partout, tout le monde est en train de s'y mettre, comme si chaque spectacle avait la même manière de se décliner, comme si chaque objet finalement était le même. Et ça, je pense que c'est faux, parce que là on essaie de c'est un exercice intellectuel de contorsion, presque de jésuite, qu'on nous demande comment on va faire rentrer notre spectacle dans ces petites cases là mais qui sont bien souvent des cases qui sont dictées par des questions plus d'ordre économique que des questions d'ordre artistique.
Alors, une casuistique, effectivement, à laquelle sont obligés de se plier les gens, quitte effectivement, en passant par ces fourches caudines, à ne plus avoir aucune originalité dans la présentation du projet, c'est le lissage dont vous parliez. Il y a aussi une réalité dont j'aimerais qu'on dise quelques mots et que vous évoquez, c'est la réalité face aux conseillers en placement du chômage. Il y a donc l'agence du Léman, ici à Genève, qui a fermé récemment. Il faut bien le dire, même si cela tend à se systématiser, il y a dans le cadre des indépendants et des comédiens des professions qu'on appelle atypiques. C'est-à-dire qu'on a une situation dans laquelle, globalement, en Europe, on le voit en France, on le voit également en Suisse, le chômage augmente en même temps que l'emploi augmente. Comment est possible ce paradoxe dans le cadre du comédien, de la comédienne ou d'un metteur en scène ou d'un acteur des arts vivants de la scène, quel qu'il soit? C'est la parcellisation des contrats, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'arrive plus à avoir des contrats qui font 12 mois d'affilée dans la période qui est donnée, donc c'est une situation totalement impossible et qui ne peut pas rentrer dans un type de formulaire, puisque le type de pratique est je crois, totalement différent et dérégule, parcellise la personne, et donc c'est une épreuve aussi pour elle. Qu'en dire justement par rapport à au rapport de l'Office cantonal de l'emploi, notamment lorsque il y a ces données comédiennes qui sont rentrées, et puis le nombre zéro au niveau de possibilités qui s'inscrit, qui est vraiment une réalité alors quotidienne?
Alors déjà, n'étant pas genevois mais neuchâtelois, et puis n'étant pas inscrit au chômage, je connais ces questions mais je les pratique pas directement. Par contre, moi je pense que le problème il est plus fondamental que ça. On n'a pas de statut en Suisse. Il n'y a pas de statut d'artiste, quel qu'il soit, que ce soit pour les musiciens, les comédiens, les danseurs, peu importe. Il n'y a pas de statut, de statut de reconnaissance sociale. Et ça c'est, je crois, le problème fondamental. En Belgique ou en France par exemple, où il y a des statuts qui existent, et le statut belge est tout à fait intéressant aussi, bien ça donne déjà une existence. Et donc, du coup, par rapport au chômage, le gros problème qu'il y a ici, c'est que les comédiens, ils fonctionnent que par CDD. Ils fonctionnent que quand contrat à durée déterminée. Donc, ça donne plein d'employeurs différents, etc. Donc, c'est très compliqué. Ça complique aussi les vies des compagnies de passer leur temps à devoir faire de la paperasse pour ça. Mais au bout d'un moment, on a surtout pas de statut. Alors, Ruth Dreyfus, à l'époque, elle avait prévu dans sa révision de la loi sur l'encouragement à la culture au niveau fédéral d'inscrire un volet social par une reconnaissance de statut. Ça a été balayé par Couchepin quand il a repris le département, et depuis on en est toujours là. Mais je crois que notre gros problème il est là. Pour l'instant on se retrouve à jouer les pompiers, c'est normal, et à se battre contre les durcissements de conditions d'octroi du chômage. Il y a eu Action Intermittente qui a fait des choses excellentes, le syndicat lui aussi, mais globalement on a toujours ce problème de fond, et tant qu'on n'aura pas réussi à obtenir une reconnaissance sociale du statut d'artiste, à partir de ce moment-là on sera toujours en train de faire les pompiers, mais on ne sera jamais dans une phase constructive, si on veut, même d'un point de vue administratif.
Alors, cette reconnaissance, vous la déviez aussi d'une autre manière dans des scènes, deux scènes pour une comédienne, où elle est confrontée donc à un objet de désir qui est un homme. Et effectivement, c'est sur le statut de la comédienne, on a l'air de participer de clichés, de situations archétypales et de lieux communs. Je pense que ça va au-delà. Quel était justement votre désir par rapport à souvent, effectivement, cette apostrophe que l'on a lorsqu'on est comédienne et qu'on avoue à une personne, dans une scène peut-être de marivaudage, le fait qu'on l'est, et à part ça, qu'est-ce que tu fais? Et puis après, il y a une deuxième personne sur laquelle qui dit, ah oui, c'est du win-to-win, enfin, qu'il y a une pensée hyper positive vis-à-vis de cela, on dirait presque de la PNL, la programmation neurolinguistique. Donc, qu'est-ce qu'il en était de montrer ces deux volets?
Mais je crois qu'il y a deux choses. Déjà, justement, il y a le premier aspect, c'est de... Quand on est dans une profession artistique, quelle qu'elle soit, on est toujours amené à répéter plusieurs fois ce qu'on fait quand on nous pose la question. Je veux dire, ça c'est un fait, c'est même pas un cliché, c'est une statistique qu'on peut tenir, hein, qu'on soit technicien, habilleur, costumière, maquilleuse, ce qu'on veut, comédien, chorégraphe, n'importe quoi. Donc on a l'impression qu'on est en train de parler de notre hobby, alors que pas du tout, on est en train de parler de ce qu'on fait. Et puis le deuxième aspect, c'est l'aspect romantique finalement. Hein. Il y a des gens, mais parfois dans le métier aussi, mais sont rares, mais il y en a qui ont une espèce de romantisme comme ça, et comme si en choisissant un métier, une profession, on avait choisi la bohème qui va avec. Et ça, c'est pas vrai. Personne chez nous n'a jamais décidé d'être un working poor ou de se retrouver à aller rarement chez le dentiste parce qu'il n'en a pas les moyens ou que sais-je. Je veux dire, c'est pas ça qu'on a choisi. On a choisi un métier. Ensuite, on a suffisamment de ténacité parce qu'on a un besoin de faire ce métier, d'expression artistique finalement, qui fait qu'on accepte toute une série de sacrifices pour quand même faire son métier. Mais si elle le dit à un moment, hein, ce serait pas un moins bon et moins beau métier si j'étais payé correctement. Et juste correctement, il s'agit pas de salaire mirobolant, il s'agit juste de pouvoir finalement avoir une existence réelle, une vie de famille, si d'un coup il arrive que, enfin voilà, ce genre de choses. Et donc il y a l'aspect peine à croire que ce soit possible et qu'on puisse en vivre, d'un côté, puis d'un autre côté, il y a le romantisme aussi qui dit qu'après tout c'est pas grave puisqu'on fait notre passion, on aime ça, mais j'espère qu'il y a plein d'autres gens dans plein d'autres domaines qui sont aussi passionnés et que ce sera jamais un critère pour mal les payer.
Dans le second round que je vous propose de détailler par quelques arcanes et quelques scènes, passons directement à la plus malaisante, celle qui effectivement, vous me le disiez, hors micro, provoque des réactions contrastées. C'est donc Fanny Pellichet, je crois, qui se déshabille et en sortant peut-être d'une sauna, d'un spa ou d'une piscine, et donc qui remet un pull par la suite et qui évoque effectivement en des termes tout à fait contrastés et aussi, ambigu à la fois sur le fond et la forme, comme par exemple un nez la butte dans Ça se passe comme ça, ou par exemple dans le dernier film Harcelé avec Samuel L. Jackson, où Samuel Jackson est noir, mais joue un noir flic raciste qui va harceler un couple où la femme est noire et l'homme est blanc. Donc on inverse aussi les termes du problème, tout en faisant passer d'ailleurs tous les clichés, les fantasmes qu'on peut avoir à ce sujet. Qu'en était-il justement dans le traitement de cette pièce, qui se fait d'ailleurs assez contre les parois, semble-t-il, métalliques? C'est peut-être un hasard, mais c'est une situation dans laquelle on peut tout de suite, très vite déraper. Comment est-ce que vous avez réussi à et conçu cette ligne claire, quelque part, dans ces clichés racistes?
Bon, nous, on s'inscrit déjà pas tout à fait dans la perspective américaine, parce que le racisme aux États-Unis est très, 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 très spécial. Je crois que là, le film Collision de Hadjis montre extrêmement bien la complexité de la chose. Mais là, c'est plutôt une double dénonciation, hein, quelque part. C'est, donc, la personne arrive et puis elle dit « il était noir ». ».« Il était noir et ça m'a fait chier ». Et à ce moment-là, les gens se disent « ouf ». Puis elle sort un pull et une jupe qui sont visiblement l'attirail du baba cool parfait. Donc ils disent « ah ben non, alors non, ça doit pas être ça, ça ». Oui, mais enfin quand même. Et puis donc on sent un petit peu ce questionnement. Moi j'ai eu des gens qui m'ont dit, quand elle a sorti ses vêtements, je me suis dit « ah non, ok, ça ira ». Puis finalement ce qu'elle dit en fait, c'est qu'elle s'est fait braquer. Elle s'est fait braquer, elle s'est fait voler son porte-monnaie. Et puis ça l'embête que la personne qui ait fait ça ait été noire, parce que finalement il joue le jeu de tout parti politique, populiste, xénophobe ou autre. l'autre qui dit « Ah ben les Noirs, c'est rien d'autre que des voleurs » ou etc. Donc ça l'ennuie, elle aurait préféré qu'ils soient blancs. Donc quelque part, au bout d'un moment, on prend pas le fait pour ce qu'il est, simplement, on le prend à cause de la couleur de peau de la personne. Donc ça dénonce aussi l'aspect complètement bien-pensant, si on veut, hein, qu'on peut avoir. Il y a vraiment les deux. Puis au bout d'un moment, à la fin, elle résout sa chose en se disant « Mince, mais après coup, en fait, j'aurais dû lui demander de m'accompagner au bancomat, donc ne pas me faire braquer, mais faire un don. Comme ça, noir ou pas, ça aurait rien changé. » C'est aussi pour dire que les étrangers, quels qu'ils soient, alors on les aime pas, ceci, cela, mais quand ils vont à la banque, ils sont égaux devant tout le monde, tant qu'ils ont un compte de chèque, tant que, etc., voire beaucoup plus. Alors là, on est à Genève, je pense qu'il y a quelques comptes sympathiques. Mais donc voilà un petit peu. Donc c'est un petit peu de montrer cette ambiguïté-là, et puis de toucher un petit peu au fait quotidien, quel qu'il soit, puis au petit dysfonctionnement qu'on peut avoir. C'est un peu ça qu'on cherche. On cherche à montrer des personnages qui empoignent les choses par le mauvais bout. Ça va créer un dysfonctionnement chez eux. Alors certains en sont victimes, et puis d'autres arrivent à s'en remettre.
C'est vrai qu'il y a du Grimbert, il y a du Bourdet quelque part aussi dans ce que vous décrivez dans votre écriture et ces situations. On prend notamment le cas des réflexions de fin d'année et donc d'actualité par rapport à un projet qui a déjà été subventionné, qui est donc celui des fêtes de fin d'année, et notamment, vous l'évoquiez tout à l'heure, toujours donc de Fanny Pellichet qui en hôtesse de l'air arrive et va parler justement de ces fins d'année, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi, presque des précis philosophiques qui se disent au travers de cela, et je pense que les sources peuvent être multiples. Qu'en était-il justement par rapport à cette réflexion sur la fin d'année ?
Alors c'était un texte qui a été, certains textes ont été écrits à la demande des comédiennes, tel sujet ou autre. On a une stripteaseuse à un moment, c'était une volonté de personnage de la comédienne. Elle a dit j'aimerais bien avoir une stripteaseuse, puis après on trouve ce qu'on va lui faire dire. Alors les fins d'année, c'est Fanny qui avait justement demandé, en disant mais il y a tellement de choses à faire et tellement de trucs que finalement moi l'année passée je me suis retrouvé seul chez moi. Et puis parce que j'ai pas réussi à décider. Et puis au bout d'un moment, c'est vrai que c'est un peu, c'est l'amusement sur commande. Donc c'est ça qu'on va questionner avec ça. C'est ah, il faut y aller, il faut s'amuser. On a tous, hein, je veux dire, ça peut être les fêtes de Genève, ça peut être la fête du vin ici, celle des vignerons là, peu importe. Mais là, tout à coup, ce week-end, il faut s'amuser. On n'a pas le choix, qu'on le veuille ou non. Paf. Et donc c'est un peu cette absurdité là, parce que l'amusement, c'est peut-être quelque chose qui se commande justement pas. Et puis donc au bout d'un moment, c'est ça qu'on va questionner avec ce personnage qui un peu obnubilé par le champagne. Mais va se trouver là-dedans en disant mais en fait ça veut plus rien dire, et puis on fait tout dans la précipitation, on prend pas le temps de faire les choses, on prend pas le temps non plus de se demander, parce qu'on dit il faut célébrer la fin de l'année, mais qu'est-ce qui dit que la fin de l'année, enfin que l'année qui vient de s'écouler mérite vraiment qu'on la célèbre, ou qu'est-ce qui peut nous laisser penser que l'année à venir sera bonne. Et en fait l'événement n'existe que par l'amusement sur commande, mais il a plus de fond. Tout à coup, ça devient quelque chose un peu une idéologie comme ça qui flottouille. Donc quoi, il faut absolument s'amuser. Mais par contre, pourquoi ? Quelle raison ? Est-ce que... Voilà, enfin, c'est un petit peu ça qu'on soulève.
Et justement, vous évoquiez ce moment donc de vestiaire pour Patricia Mollet-Mercier de striptease, qui est donc, si je vous ai compris, une commande de sa part. C'est vrai que quand on voit tout simplement sa plastique, on se dit qu'elle pourrait peut-être agir dans ce type de cabaret, ne serait-ce qu'un problème qui est celui de la taille. Pour effectivement un certain nombre d'entre eux, elle serait peut-être de taille un peu petite, mais effectivement... Le physique est d'une perfection quasi absolue. Justement, sur ce côté un peu Bertrand Blier, comme ça, on pourrait se dire au départ, disons, dans cette confession à la fois croquignolesque et un peu sordide de ces body-to-body, c'est-à-dire ces striptease privés, en l'occurrence, en tout cas ce qu'on devine, elle arrive avec une perruque bleue. Elle est brune et elle repartira en blonde. Vous jouez de l'alternance blonde-brune pendant toute la pièce.
Première idée, c'était... Enfin, d'abord, c'était à sa demande. Elle voulait un personnage de stripteaseuse. Après, je me suis demandé, qu'est-ce que la stripteaseuse peut dire ? Quel propos est-ce qu'on pourrait lui donner ? Puis, comme on parle de crise, de tout ça et autres, et puis que quand même une bonne partie de la clientèle des cabarets ou autres, c'est, vu les prix qui sont pratiqués dans les cabarets, simplement, sont plutôt des gens aisés, et puis qu'il y a des fois des sorties de boîte qui peuvent finir là-dedans, l'idée, c'était de se dire, voilà, d'un coup, elle va tomber sur un banquier qui va s'effondrer, comme le cours des marchés, sur elle, pour lui dire que voilà, qu'il est foutu, qu'il est cuit et tout. Donc, comme elle n'y pense pas, parce qu'elle est dans la chose, elle est en train de se changer en deux numéros, elle va y retourner. Ben voilà, on a ce petit moment de pause là, avec ce qui vient de lui arriver dans le petit salon, puis en expliquant que des fois elles ont soucis, puis quand même, et puis que les gens un peu âgés, des fois ils pourraient avoir des palpitations qui font que ça s'emballe. Et donc voilà, donc tout à coup qu'elle arrive là, mais ça se veut pas voyeur. C'est pas, il y a pas de traitement de lumière spécial non plus pour rendre ça beau ou autre. Ça, c'est vraiment pas le but. On joue ce vestiaire, et dans les vestiaires, il arrive parfois qu'on soit un peu plus nu qu'en sous-vêtements.
Alors, le côté mode d'emploi, vie mode d'emploi, c'est quelque chose qui ressort à l'occasion de plusieurs de ces épisodes, et notamment avec une simple considération sur le fait de commander un menu au McDonald's. Et donc, c'est la manière un petit peu de subvertir un ordre qui existe. Alors, on n'est pas, évidemment, puisqu'on cite beaucoup de films américains, dans le cas de Chute libre de Joël Schumacher, donc avec Uzi et autres choses pétaradantes, parce que le menu du matin est dépassé de 3 minutes, et que ce qu'on sert n'est pas vraiment ce qu'il y a sur les petites plaquettes lumineuses. Mais, disons, là, on est dans une interrogation par rapport au fait, justement, de faire les choses dans l'ordre et avec la pression d'une file. Qu'est-ce que vous aviez ? C'est pas le seul épisode, d'ailleurs, qui questionne un côté coaching de la vie, en fait.
Oui, alors c'est sans toujours vouloir donner de leçons, mais c'est intéressant. Il y a plusieurs personnes qui ont vu la pièce et puis qui m'ont dit, je suis passé au McDo, j'ai repensé à ça. J'ai essayé de me remémorer l'ordre exact de la commande. Des gens qui m'ont dit qu'ils sont passés à l'office des poursuites et puis qu'ils ont pensé très fort au premier texte de la deuxième partie. Enfin, c'est des éléments de vie quotidien. L'idée, là, c'est de questionner l'habitude et puis de dire, ok, c'est vrai, il y a des habitudes qu'on est obligé d'avoir et puis on veut rompre la monotonie, ne pas tomber dans la routine et autres. Mais la routine, c'est pas forcément un obstacle. Il y a des endroits où, je veux dire, je vais rien gagner qualitativement dans ma vie en passant ma commande au McDonald's, par exemple, dans un ordre complètement pas possible. Au contraire, je vais perdre du temps, tout le monde va perdre du temps, ça va être fastidieux pour tout le monde. Donc, au bout d'un moment, la routine, l'aspect protocolaire peut être utile pour le faire le plus vite possible, que ce soit le plus vite possible derrière et qu'on puisse ensuite occuper son temps à autre chose, de façon plus intéressante, dans le fond. C'est ce qu'elle dit à la fin quand elle dit « combien de minutes ainsi sacrifiées sur l'autel de l'originalité feinte ?» On veut être original et faire différent, mais en fait, on fait juste perdre du temps à tout le monde. Et ce temps-là, lui, par contre, il aurait été source d'originalité réelle, quelque part. Donc, c'est un petit peu ça qui vise à dénoncer et puis à dire qu'au bout d'un moment, c'est aussi les employés qui sont obligés d'avoir les choses dans le bon ordre, ils n'ont pas le choix. Donc, c'est un petit peu cette contrainte. Mais comment, dans la contrainte, on peut dégager une marge de liberté puis réussir finalement à en faire quelque chose de plutôt constructif?
Alors, vous parliez de Paul Haggis, film choral, s'il en est, avec Collision. Je pense qu'on a aussi un aspect de théâtre choral ici, parce qu'il y a beaucoup de correspondances un petit peu dans ces vies, au départ par les pupilles de papier, puis qu'en même temps, je veux pas raffiner, mais c'est un petit peu comme les morceaux d'un kaléidoscope dont on retrouverait certains éclats repris ou d'une autre manière. Vous parliez notamment de ces échanges de vie. Alors, il y a un exercice au départ qui est fait par Fanny Pellichet, c'est Vie ma vie, qui d'ailleurs existe, c'est un reality show de ce cas-là. Et puis après, vous avez l'aspect donc avec Patricia Mollet-Mercier, je m'excuse, ça fait un peu exégèse, mais disons, où elle parle justement de cette réceptionniste aux impôts et ne pas être dans la mauvaise peau et du mauvais côté du comptoir. Donc, ce côté Vie ma vie...
Oui, c'est... Bon, le premier, celui de Fanny, c'est l'idée de dire, vous allez être le centre d'attention à la fin du spectacle, parce que je vais venir vous dire un secret à l'oreille. Vous êtes le seul à savoir, donc les gens viendront vous demander, pour peu qu'ils soient curieux. Donc c'est placer la personne en état de représentation, après la représentation, et puis c'est un petit peu interroger ce que c'est le pouvoir au théâtre, ce qu'un comédien peut faire à un spectateur s'il décide de le prendre comme cible, on peut se souvenir de Klaus Kinski, des fois, qui prenait des spectateurs comme cible, quand ils avaient le malheur de tousser au mauvais moment. Mais donc il y a cette idée là et puis l'autre, pour l'office des poursuites, c'est pas les impôts, c'est vraiment les poursuites. C'est ce personnage qui, dans le fond, avait peur de travailler là parce qu'il y a des gens avec échec, avec tout ça. Ça dit beaucoup sur la Suisse aussi. C'est mal d'avoir des poursuites, il faut pas ceci, mon Dieu, et voilà, ce côté très protestant aussi qu'on a parfois. Et puis, mais finalement, le personnage qui est complètement prisonnier de ça et puis qui ne peut mesurer sa seule réussite sociale qu'au fait d'être du bon côté du comptoir de la réception quelque part, et puis que par moments elle en vient à paniquer, elle en vient vraiment à paniquer, puis à se dire, mais ou dans, en baladant dans le service, une fois je vais me retrouver du mauvais côté, je vais être coincé. Et donc c'est comme s'il y avait une barrière, une espèce de délimitation claire entre les bons contribuables, les mauvais contribuables, les gentils, les méchants, etc. Alors que je pense qu'il y a des gens parfaitement haïssables qui payent extrêmement bien leurs impôts et tout le reste parce qu'ils en ont simplement les moyens, mais c'est pas pour autant qu'ils sont respectables. Donc, enfin, c'était un petit peu de montrer ça, puis de montrer le dysfonctionnement de cette personne qui considère un petit peu la misère comme un virus qu'on pourrait attraper soudainement. Donc c'était un petit peu de souligner ça.
Alors, vous jouez souvent parfois sur la fausse piste ou le contretemps, c'est-à-dire que parfois il y a des propos qui peuvent amener très progressivement, notamment celle de cette jeune femme qui arrive avec une veste en cuir brune, assez vieillie, des bottines, je crois, et puis qui va lentement revêtir le costume d'une vigile. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui parfois dévie aussi, parce que quelque part on se dit, il y a un jeu sur l'expectative du spectateur. Comment est-ce que vous avez réglé justement ce ballet entre les mots, ce qu'ils vont dire de l'identité future de la personne ou non, et les habits?
Oui, alors là, on est vraiment parti des textes, parce que ben, dans celui que vous citez, c'est la question du bon ordre des choses, hein, de l'alignement et du sentiment de sécurité, c'est surtout ça. On traite du sentiment de sécurité. Si d'entrée de jeu, la personne qui vient nous parler de ce sentiment de sécurité, on voit que c'est une vigile, ça va changer la nature de la perception du propos. Tandis que si elle arrive habillée en civil, comme n'importe qui pourrait l'être, un petit peu peut-être country en l'occurrence, et puis, mais que petit à petit, alors que le propos est déjà complètement dévoilé, on se rend compte de qui tient ce propos, du métier qu'elle exerce, ça donne un deuxième effet, si on veut. Donc c'est plutôt ça qu'on a regardé. Certains arrivent en costume de travail, d'autres en costume de loisir pour la ville ou autre, mais on a équilibré et cherché ça par rapport au propos pour pas trop dévoiler les choses d'entrée de jeu.
Un épisode qui est peut-être aussi tiré d'exercice pour le comédien, il y avait une célèbre chorégraphe américaine qui est toujours vivante, qui s'appelle Trisha Brown, et qui faisait ses premières chorégraphies dans les années 60 à New York, ça s'appelait Accumulation with Talking. Et donc on prenait un mouvement, on rajoutait un autre mouvement, on reprenait depuis le début, on rajoutait encore un autre mot, on refaisait toute la séquence. Vous, effectivement, vous avez d'ailleurs ce type, donc les deux personnes sont au bout du banc, de leur banc face publique, et c'est une sorte de concurrence, mais c'est un jeu qui est assez encore couramment, dans les premières années, utilisé, c'est-à-dire qu'on ajoute chaque fois un qualificatif, une situation, un événement. Comment est-ce que cela a surgi?
Oui, alors, il est grand, il est beau, il est fort, c'est l'idée, en fait, et ça c'est improvisé déjà, hein. Donc il y a il est grand, il est beau, il est fort, c'est la base, et ensuite c'est elle qui rajoute chaque fois quelque chose. L'idée, en fait, c'était de montrer la concurrence à tous les niveaux, c'est-à-dire, ça peut être ce qu'on appellerait l'upstaging, c'est-à-dire, je vais être meilleur que toi sur scène, etc., mais aussi la surenchère, hein, au bout d'un moment, et puis l'absurdité qui peut y avoir à cette surenchère, voire les contradictions que ça peut contenir. Moi, je leur donnais tout le temps l'image du dictateur de Chaplin avec Mussolini et Hitler qui montent sur leur chaise de barbier jusqu'à ce que tout à coup, boum, ça s'effondre, ou qui surdosent de moutarde leur sandwich pour finalement hurler parce que ils sont en train de se faire.